La carte Visa Orange Money, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la Radio du Monde. Chaque matin, c'est votre émission. Vous avez la parole. Dans une demi-heure, le débat du jour portera sur Boko Haram. Cela fait 10 ans que le groupe islamiste a choisi le djihad armé. Il a complètement désorganisé, déstabilisé les pays riverains du lac Tchad. On l'a encore vu samedi au Nigeria avec une attaque qui a fait plus de 65 morts. Nous attendons vos témoignages, vos commentaires sur le sujet, sur les réussites et les échecs de la lutte antiterroriste. Vous pouvez aussi nous raconter comment votre quotidien a été modifié depuis que Boko Haram est arrivé dans le paysage, les contraintes sécuritaires, la présence militaire omniprésente, les difficultés d'approvisionnement. On vous attend par téléphone 33 9 693 693 70 sur la page Facebook de l'émission et sur notre fil WhatsApp 33 6 89 28 53 64. Avant cela, chaque matin, la rédaction d'Appel sur l'actualité, la rédaction de RFI, nos experts, tout le monde se mobilise pour répondre à vos questions. Vous en avez d'ailleurs beaucoup sur Boko Haram avec peut-être que vous avez entendu ce week-end de l'excellent travail de nos équipes diffusées sur l'antenne de RFI. Et un expert du Nigeria et de ce groupe, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, répondra à vos questions. Mais tout d'abord, nous sommes en ligne d'Abomé Calavi, au Bénin, avec Delphin. Bonjour Delphin.
Bonjour François, bonjour Bénin, bonne fête.
Bonjour à tous, donc au Bénin. Vous avez des questions, Delphin, sur une des dernières menaces de Donald Trump. Donald Trump qui promet des représailles contre le vin français suite à l'adoption d'une loi par l'Assemblée nationale française, une loi qui taxe les géants du numérique.
Évidemment. En réaction à la taxe GAFA, Trump a menacé des représailles le vin français. Quelles mesures pourraient prendre les États-Unis contre le vin français et quelles pourraient être les répercussions sur les viticulteurs français?
Alors, on va poser la question à Abla Junaidi. Bonjour.
Bonjour.
Du service économie de RFI. Abla, concrètement, de quels moyens de rétorsion dispose Donald Trump contre le vin français?
Alors, beaucoup de moyens de rétorsion. La piste qui est donc évoquée depuis quelques jours par Donald Trump, c'est de effectivement taxer le vin, enfin s'en prendre au vin. Et la mesure qui pourrait être prise, il y a raison d'employer le conditionnel parce que en réalité aucune position officielle n'a été adoptée encore côté américain. Il y a une enquête en cours qui a été lancée pour établir quel manque à gagner en cas d'application de cette taxe GAFA sur les groupes américains. Et ensuite, en fonction du résultat de cette enquête, donc ça peut prendre plusieurs mois, des mesures sont prises là. Donald Trump a bousculé un peu tout ça et a décidé de s'en prendre au vin français, qui est un secteur à la fois symbolique, hein, c'est le vin français connu dans le monde entier, et stratégique. Hein, on rappelle que le marché américain, c'est le premier marché pour le vin français. 4,4 milliards d'euros de vin français sont acheminés chaque année
vers les États-Unis. C'est 20% des exports mondiaux de la viticulture française.
Voilà, c'est énorme. Et donc, ce qui pourrait être ce dont on parle, là, les experts, c'est d'un doublement de la taxe à l'entrée sur le marché américain. Donc, actuellement, une bouteille est taxée entre 5 et 15 centimes. Là, ça passerait donc à 10, de 10 à 30 centimes la bouteille. Donc, les répercussions sont énormes, surtout sur le gros des volumes, qui sont des bouteilles, donc pas bon marché, mais en tout cas... pas les plus grands
de gamme
crus,
moyenne.
De gamme moyenne qui intéressent le marché américain et donc qui font vivre les viticulteurs français indépendants, ceux qui sont les plus inquiets, parce que ça veut dire qu'à chaque étape de l'importation du vin aux États-Unis, le prix augmente et donc ça a des répercussions énormes sur leur chiffre d'affaires à eux et ça favorise la concurrence espagnole et italienne parce qu'il est question de taxer que le vin français, pas le vin européen. Actuellement, la taxe qui s'applique sur les vins, elle est européenne. C'est-à-dire que D'accord. c'est le vin européen qui est taxé sur le marché américain.
Là, ça veut dire qu'un vin français et un vin italien ont la même taxe et ce ne serait plus le cas.
Voilà, exactement. Donc on se reprend particulièrement au vin français, donc ça peut faire effectivement très mal aux producteurs.
Delphin, vous aviez une autre question pour Abla Junaidi.
Oui, une deuxième question. Pourquoi la France a-t-elle décidé de mettre des taxes au risque de représailles de la part des États-Unis alors que les négociations sont en cours pour un accord sur une taxe globale sur le numérique?
Abla, pourquoi Paris a pris les devants avant un accord global et même européen?
Oui, alors justement, c'est en prenant acte du blocage, puisqu'il y a un blocage au niveau international, des négociations sont en cours, Delphine le rappelle, mais aussi au niveau européen, il était question de s'entendre l'année dernière sur une taxe au niveau de l'Union européenne, et ça n'a pas abouti parce que certains États qui accueillent les sièges sociaux des grands groupes du numérique, l'Irlande et les Pays-Bas pour ne pas les citer, ont bloqué au niveau politique, au niveau des États. Donc, ça bloque au niveau européen, ça bloque au niveau international, parce qu'en général, ça prend du temps, ça prend des années de s'entendre au niveau international sur des textes.
Donc, la France avait besoin de marquer le coup.
Oui, alors c'est à la fois politiquement, en France, on a les gilets jaunes qui dont l'un des mots d'ordre c'est la justice fiscale. Donc c'est aussi donc pour le gouvernement français une façon de dire on tape fort, on va taxer les grands groupes du numérique. Il n'y a pas de raison qu'ils échappent à l'impôt en France puisqu'ils déclarent leurs bénéfices ailleurs qu'en France, hein, dans les pays plus cléments au niveau fiscal. Donc il n'y a pas de raison, c'est une façon aussi de prendre le leadership de la question au niveau international, de se positionner, notamment face aux États-Unis, qui en réalité partagent le point de vue français sur la façon dont ces grands groupes échappent à l'impôt. Donc c'est aussi une façon de prendre le leadership à ce niveau-là.
Voilà, une question politique autant qu'économique. Merci à Blajounaïdi et merci à vous, à Delphin. Merci, vous qui êtes à Abomey, Calavi, au Bénin, où il est 9h16. Direction Montreuil maintenant, en région parisienne, où nous attend Mamadou. Bonjour Mamadou.
Bonjour François.
Vous intéressez aux travaux de la commission Vérité et Réconciliation en Gambie. Ils se sont ouverts au début de l'année pour juger des crimes commis sur le régime de Yahya Jammeh, qui a dirigé le pays d'une main de fer entre 1994 et janvier 2017 et qui vit désormais en Guinée équatoriale. Quelles sont vos questions, Mamadou?
En Gambie, la commission Vérité et Réconciliation auditionne les anciens collaborateurs de l'ex-président Yahya Jammeh, accusé d'assassinat et crime contre l'humanité. Comment cette commission travaille pour faire la lumière sur les crises commises?
On va demander cela à Romain Chanson, qui est notre correspondant à Banjul. Bonjour.
Bonjour et bonjour Mamadou, merci pour cette question.
Alors Mamadou demande comment travaille la commission pour faire la lumière sur les crimes commis pendant les 23 années de règne de Yahya Jammeh.
Exactement. Alors pour le moment, les enquêteurs de la commission ils s'appuient essentiellement sur des témoignages. Ces témoignages, par exemple, ils ont déjà permis d'identifier une fosse commune qui contient les corps de soldats assassinés. Et il reste encore de nombreuses sépultures à découvrir, à la fois en Gambie et notamment en Casamance, au Sénégal. Et ces dépouilles, en fin de compte, au final, elles serviront ensuite de preuves physiques pour les enquêtes. Il faut aussi noter le travail d'enquête mené par des ONG comme Human Rights Watch. L'organisation a par exemple récemment enquêté pendant un an et demi, c'est énorme, sur la prédation sexuelle de Yahya Jammeh. Et cette enquête, elle devrait ensuite servir de support pour une session devant la commission consacrée aux violences sexuelles.
Alors Romain, vous dites que les enquêteurs se basent sur la parole des témoins, mais comment avoir confiance en ces témoignages?
Alors la commission, elle fait tout un travail de recoupement. Aujourd'hui, on approche à peu près des 100 témoins auditionnés depuis le mois de janvier. C'est autant de récits qui peuvent être finalement recoupés quand ils évoquent les mêmes violations des droits de l'homme. Par exemple, si vous avez trois personnes qui sont interrogées sur les mêmes faits, les trois versions seront confrontées pour connaître la valeur des témoignages. Il arrive parfois que les protagonistes ils s'accusent de mentir, c'est bien normal. Certains auteurs présumés peuvent être tentés aussi de minimiser leur implication dans les crimes. J'étais présent, mais je n'ai rien fait, ou très peu, ça a déjà été entendu devant la commission. Et c'est ensuite à la commission Vérité de recouper ces informations et de découvrir la vérité.
Mamadou, vous aviez une autre question pour Romain Chanson.
Oui, j'ai une autre question. Pourrait-elle lancer des procédures judiciaires contre les personnes auditionnées ou même Yahya Jammeh? Sinon, ces dernières pourraient-elles être transférées à la CPI?
Alors Romain, quels sont les pouvoirs réels de cette commission?
Alors, très bonne question Mamadou, hein, puisque la commission Vérité, ce n'est pas un tribunal. Elle ne peut pas poursuivre les personnes qu'elle interroge. À la fin de ses travaux, en revanche, ils doivent durer au minimum 2 ans, la commission elle va remettre ses recommandations au président Adama Barrow, le ministre de la Justice, qui est aussi le procureur général, pour ensuite décider d'éventuelles poursuites. Et le procureur, il peut aussi prendre cette initiative avant la fin des travaux. C'est arrivé récemment avec l'arrestation d'un ancien membre de la junte, Il est poursuivi d'ailleurs pour l'assassinat d'un ministre des Finances. Il faut aussi noter que l'amnistie est aussi envisagée pour les criminels qui ont coopéré avec la commission et qui ne se sont pas rendus coupables de crimes contre l'humanité. Mais cette possibilité d'amnistie aujourd'hui, elle fait un peu polémique en Gambie. Pour ce qui est de Yaya Djamé, l'ancien dictateur aujourd'hui, il est réfugié en Guinée équatoriale, pays qui n'a pas ratifié le traité de Rome. Il est donc a priori hors de portée de la Cour pénale internationale. Et jusqu'à présent, le président Théodore Obiang n'a pas l'intention de livrer Yaya Djamé. La stratégie donc de l'ONG Human Rights Watch, c'est d'attaquer cette montagne judiciaire par un autre versant. En 2005, une quarantaine de migrants ghanéens ont été massacrés en Gambie sur ordre de Yaya Djamé. Le Ghana pourrait donc poursuivre Yaya Djamé et demander son extradition à la Guinée équatoriale. Et au fur et à mesure que l'on va découvrir l'ampleur des crimes commis sur ordre de Yaya Djamé, la pression, elle va devenir de plus en plus forte sur la Guinée équatoriale.
Alors, peut-être Yaya Djamé jugé au Ghana, mais pourquoi pas en Gambie après tout ?
Alors c'est très compliqué ici, c'est même pas vraiment souhaité finalement, puisque la situation sécuritaire de la Gambie, elle est encore trop fragile pour accueillir un tel procès. Il faut aussi se doter d'un arsenal législatif assez fort pour ne pas finalement laisser filer celui qui a modifié la constitution à son avantage en 1997.
Merci Romain Chanson d'avoir été avec nous à Banjul, et merci à vous Mamadou qui étiez en ligne de Montreuil. Nous sommes maintenant avec Marc-Antoine Pérouse de Monclos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du Nigeria à l'Institut de Recherche et de Développement et vous allez répondre aux questions posées par deux de nos auditeurs sur Boko Haram, organisation entrée dans le djihad armé il y a 10 ans. Ce soulèvement a fait, selon les estimations, 27 000 morts au moins, plus de 2,5 millions de déplacés et réfugiés. Et on va commencer avec vous, Marius, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour.
Bonjour François Mazé, bonjour à nos braves techniciens.
Marius, quelles questions souhaitiez-vous poser à Marc-Antoine Pérouse de Monclos ?
Ok, il y a 10 ans que l'organisation terroriste Boko Haram sévit le long du Tchad. Avant de devenir un groupe terroriste, Boko Haram était une secte étudiante. Comment expliquer une telle transformation ?
Alors Marc-Antoine Pérouse de Monclos, c'est vrai qu'au début, Boko Haram, ce n'est pas un groupe armé, c'est un groupe qui est formé autour d'un prêcheur, certes charismatique, salafiste, mais qui n'est pas violent. Alors comment ce passage à la violence s'est-il effectué ?
Bon, ça a démarré en juin-juillet 2009, en fait. C'était une secte qui était extrêmement virulente, hein, violente dans ses discours, mais qui effectivement n'avait pas prêché directement le djihad, c'est-à-dire la lutte armée. D'ailleurs, à meilleure preuve, c'était pas un groupe terroriste, ils n'étaient pas clandestins, ils avaient leur mosquée, leur centre religieux, le Markaz à Maïdougouri, la capitale du Borno au Nigeria. Mais ça a démarré sur une altercation avec la police en juin 2009, au moment de funérailles de membres du groupe qui étaient décédés du fait d'un accident de voiture, et la police a tiré dans le tas, comme elle sait si bien le faire au Nigeria. Et donc là, à ce moment-là, ça a provoqué un appel à la vengeance de la part du leader du groupe, Mohamed Youssouf, et du coup une très forte répression d'abord de la police puis de l'armée, et le leader du groupe qui le structurait, Mohamed Youssouf, a été exécuté sans autre forme de procès par la police nigériane. Là, on est en juillet 2009.
Oui, on parle, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, de plus de 1000 morts en 4 ou 5 jours dans le nord du Nigeria à ce moment-là. C'est voilà. Énorme.
L'armée prend la relève de la police, tire dans le tas. On a des images qui ont été diffusées notamment sur Al Jazeera, où on voit effectivement des gens qui ne sont pas armés, qui sont liquidés sans autre forme de procès. Et donc le groupe rentre dans la clandestinité et il se brutalise sous l'égide du numéro 2 de Youssouf, qui donc lui est tué et assassiné en fait par la police. Et son numéro 2, Aboubakar Chekao, celui qui commettra l'enlèvement des filles de Chibok, va à ce moment-là organiser le groupe, la résistance du groupe dans la clandestinité, d'abord dans Maïdougouri, d'où ils seront chassés plus ou moins à partir de 2013, et puis ensuite dans les campagnes, et puis en s'étendant en fait, en étendant disons son rayon d'action militaire dans les pays riverains, notamment la région de Diffa au Niger, la région du lac Tchad, et puis l'extrême nord du Cameroun.
Et Marius, vous aviez une question à propos d'Aboubakar Chekao. Marius, est-ce que vous êtes là à Abidjan ?
Je suis là, je suis là.
Allez-y, posez votre question.
Ok, Aboubakar Chekao est un mec pas non plus mort
Alors, je suis désolé Marius, on ne vous entend pas bien. Je vais relayer votre question auprès de Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Aboubakar Shekao a été annoncé mort au moins 4 fois hein, par l'armée nigériane. Que sait-on exactement de sa situation actuelle? Est-ce que c'est vraiment lui qui dirige Boko Haram aujourd'hui?
Alors moi j'avais un décompte qui était même supérieur au vôtre, hein, plus d'une demi-douzaine de fois sans compter les déclarations de l'armée camerounaise ou tchadienne. Hein. Alors bien malin celui qui pourrait dire si Shekau a effectivement été tué ou pas, on n'a pas d'informations indépendantes à ce sujet. Beaucoup de gens spéculent sur la possibilité d'un sosie. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est que ces annonces des armées de la coalition antiterroriste qui luttent contre Boko Haram avec le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun, en fait, se déconsidèrent en faisant ce genre de déclaration qui amène souvent, du coup, à une vidéo qui est diffusée sur les réseaux sociaux, moqueuse, qui justement invective les armées qui sont incapables d'éliminer le chef de Boko Haram, qui du coup apparaît comme invincible. Et encore plus fort qu'il ne l'est réellement. Donc c'est plutôt cette guerre de communication qui importe. La réalité du terrain, c'est que Aboubakar Shekao, qu'il soit vivant ou mort, ce qu'on sait, c'est que les combats continuent.
Et justement, cette crédibilité de la réponse internationale, on va en parler avec Isséini, qui est en ligne de Douala au Cameroun. Bonjour.
Bonjour François, bonjour Marc-Antoine.
Isséini, vous aviez également des questions sur Boko Haram.
Oui, en effet, François, comment expliquer que depuis plus de 10 ans, l'armée nigérienne n'arrive pas à vaincre Boko Haram?
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, il y a quand même des armées puissantes sur le papier dans la région, l'armée du Nigeria, l'armée du Tchad, les forces spéciales camerounaises. Pourquoi est-ce que le groupe n'est pas vaincu?
Il y a toute une série de réponses assez complexes à cette question, dont une qui tient à la configuration du terrain, un schéma assez classique où un groupe insurrectionnel se joue des frontières pour échapper à ses poursuivants. Mais il y a aussi fondamentalement les défaillances de l'armée nigériane qui continue d'être gangrénée par la corruption, dont la performance militaire est assez mauvaise, qui a tué beaucoup de civils, légitimant ainsi le groupe insurrectionnel. Il y avait eu de grands espoirs au moment de l'élection de Muhammadu Buhari en 2015, la première élection, pas sa réélection, mais celle de 2015, parce que Muhammadu Buhari, le président du Nigeria, est un ancien militaire.
C'est un homme du Nord aussi, voilà.
C'est un musulman du Nord, voilà. Il avait l'air beaucoup plus à même de régler cette question que son prédécesseur, qui lui était un chrétien du Sud, qui n'avait vraiment pas d'appétence pour la chose militaire. Mais malheureusement, c'est précisément parce que c'est un militaire que Buhari n'a pas voulu en fait nettoyer les écuries d'Ogias que sont l'armée nigériane. Et donc, au lieu de la réformer, de la professionnaliser, en réalité, malheureusement, on continue de voir, d'assister à des problèmes qui existaient déjà du temps de Goodluck Jonathan, qui font qu'effectivement la performance est mauvaise, c'est-à-dire que l'armée nigériane peut tendre organiser des offensives de temps en temps, mais elle ne tient pas le terrain. C'est-à-dire que le Borno rural, notamment les franges vers les frontières du Niger ou du Cameroun ou du lac Tchad, continue en fait d'être terrain libre pour les différentes bandes armées. Et c'est un peu plus compliqué que simplement deux factions de Boko Haram. Mais le terrain n'est pas tenu dans le monde rural par l'armée nigériane.
Alors Isséini, il y avait une autre question que je vais vous poser directement parce qu'on manque un petit peu de temps. Il voulait savoir comment se porte la coopération régionale entre les pays voisins. Est-ce qu'elle fonctionne?
Alors je dirais que sur le plan militaire, il y a toujours de gros problèmes de coordination. En revanche, sur le plan politique, la bonne nouvelle de cette crise quand même, c'est qu'il y a eu un rapprochement très fort du Nigeria et du Cameroun, qui quand même, rappelez-vous, dans les années 90, se faisait la guerre à propos d'une frontière contestée dans la péninsule de Bakassi, où il y a du pétrole, et qui là se sont beaucoup rapprochés, ce qui fait qu'en 2018, pour la première fois, l'armée nigériane défilait à Yaoundé pour la fête nationale au Cameroun. Donc ça, c'est l'effet positif de cette crise, c'est que ça a quand même rapproché les pays de la région autour d'un ennemi commun. En revanche, sur le plan militaire, il continue d'y avoir des défaillances en termes de coordination, avec par exemple des coups de l'armée du Niger ou du Tchad qui pénètrent sur le territoire nigérian, qui sont autorisés à se faire dans une certaine profondeur, qui vont attaquer des repères de Boko Haram, mais malheureusement l'armée nigériane n'occupe pas le terrain, ne prend pas la suite, et donc on retourne à chaque fois à la case départ.
Très rapidement, en 30 secondes, beaucoup d'auditeurs sur Facebook nous demandent d'où viennent les armes de Boko Haram. Est-ce que vous pouvez leur répondre?
Oui, elles viennent de l'armée nigériane, elles viennent de la gendarmerie camerounaise. Elles sont pillées lorsque le groupe se saisit de fortins qui sont entre les mains de ses forces de sécurité. Et arrêtons de fantasmer sur de possibles livraisons d'armes en provenance de Libye ou de Daesh et d'Irak. Ça, tout ça, c'est du fantasme. La réalité du terrain, c'est que l'armée est très corrompue. Il y a beaucoup de reventes d'armes, y compris par les militaires de la région.
Merci beaucoup Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Le mot de la fin, c'est que Boko Haram se nourrit directement sur la bête. Merci à Marius et à Isaini d'avoir été avec nous. On lance le débat dans 10 minutes.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie